Décryptualité, semaine 21. Salut Manu.
Salut Luc.
Commençons par le sommaire. 01net, Avai Binpone devient open source et s'allie au FBI, un article de Gilbert Kallenborn.
Alors, Avai Binpone, c'est un système qui permet de vérifier si vos informations de connexion ont été fuitées sur Internet. Donc, il regroupe pas mal de bases de données qu'utilisent les hackers. Et dedans, il y a des logins mots de passe, en gros. Hein, c'est ça, c'est des longues listes de logins mots de passe. Et si votre login mot de passe a été fuité et qu'il se retrouve là-dedans, c'est embêtant. Donc, vous pouvez aller et utiliser aujourd'hui même ce site pour essayer de tester hein, et voir si il faut que vous changiez votre mot de passe impérativement, là, tout de suite, maintenant. Et là, il s'allie au FBI. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça voudra dire à terme, mais en gros, les institutions vont aller piocher là-dedans, sachant que les navigateurs, déjà, vont piocher sur ce genre d'outils pour... Bah vous évitez de réutiliser des mots de passe qui ont déjà été compromis.
Usinedigital.fr, la CNIL dit non aux outils collaboratifs américains pour l'enseignement supérieur et la recherche. Un article d'Alice Vitard.
Ils disent non, mais en fait, c'est une volonté d'arrêter tout ça. Parce que c'est pas encore fait, malheureusement. Il y a plein de gens dans l'éducation qui utilisent ces outils hors frontières européennes, parce que c'est ça qui joue. Mmh. Et donc, on n'est pas couvert par le RGPD, on n'est pas couvert par les règlements sur les données, l'utilisation à outrance qu'on peut en avoir aux États-Unis, hein, typiquement. Donc là, oui, c'est un vouloir, on veut arrêter, mais c'est peut-être pas un pouvoir. Le temps nous le dira.
Ouest France, le Ripper Café numérique doré aide les utilisateurs à réparer leur ordinateur, un article de la rédaction.
Donc c'est une association, l'association Défi, qui est mise en avant. Et effectivement, c'est super parce que bah, dans le Morbihan, ils récupèrent du matos, ils le reconditionnent, ils mettent du logiciel libre dessus et ils le donnent à différentes personnes, donc c'est vraiment pas mal.
ZDNet France, pour des logiciels verts, Microsoft, GitHub et la Fondation Linux créent la Green Software Foundation, un article de Thierry Noisette.
On en parle juste après.
Le Nouvelliste, logiciel libre, la coopération plutôt que la compétition, un article de Jean-Yves Prou.
Alors c'est quelque chose d'assez générique et général. Qui aborde les concepts du logiciel libre. C'est pas mal, allez jeter un œil, ça sensibilise, et on a toujours besoin de le faire et de le refaire. Et il me semble que c'est au Canada que l'article est dirigé, mais c'est pas mal, c'est pas mal.
Donc notre sujet de la semaine, c'est l'environnement, avec cette annonce de Microsoft, GitHub, bon, GitHub appartenant à Microsoft, donc Microsoft oui, et Microsoft, oui. Et la Fondation Linux.
Qui font une fondation, une nouvelle.
Une fondation, voilà. Et donc, l'idée, quoi, c'est d'optimiser des logiciels pour qu'ils consomment moins quand ils tournent ?
Voilà, c'est ça. C'est pour réduire l'impact environnemental des logiciels. Ils veulent réduire pas mal les gaz à effet de serre. Donc, c'est 45% d'ici le 2030. C'est pour correspondre aux accords du climat, les accords de Paris sur le climat, notamment. Et ils veulent faire ça en travaillant sur des problématiques liées aux logiciels, en faisant émerger des bonnes pratiques, des standards... en développant des briques qui pourront peut-être être réutilisées. Donc c'est plutôt orienté logiciel libre, ce qui est bien. C'est plutôt de bonne volonté, c'est bien aussi. On partage et on met en commun des choses qui vont aider tout le monde. Mais comme on le sait, c'est aussi limité. Parce que là, ça ne touche que le logiciel.
Effectivement. Alors les 45%, c'est l'objectif des accords sur le climat de Paris. Donc c'est pas l'objectif qui se fixe eux. Ils veulent en tout cas contribuer en optimisant les logiciels. Alors, on peut pas dire que c'est inutile, ça va dans le bon sens, mais l'environnement et l'informatique, c'est bien plus que le logiciel, puisqu'en fait, le matériel lui-même génère énormément de pollution et consomme beaucoup d'énergie quand on le construit. Du coup, si on fait des nouveaux logiciels qui nécessitent des nouvelles technologies, par exemple, ben, on n'est pas dans quelque chose de très productif.
Alors, c'est pas mal ce que tu dis, et pour le coup, peut-être que l'association Défi, dont on parlait il y a quelques minutes, et qui font de... leur mise à neuf d'ordinateurs, peut-être qu'ils font plus que Microsoft pour l'écologie et pour le monde.
Bah, oui, on peut se poser la question. En tout cas, faire durer un ordinateur plus longtemps, c'est clairement un avantage en termes d'environnement qui est très important. Donc dans les chiffres, donc j'ai vu ça sur le site de Greenpeace, dit par exemple, la production d'un téléviseur exige d'extraire 2,5 tonnes de matières premières, génère 350 kg de CO2, donc l'équivalent d'un Paris-Nice en avion, hein, d'un aller-retour Paris-Nice en avion. J'avais vu des chiffres il y a quelques années qui disaient qu'un ordinateur portable, il fallait le faire tourner sans discontinuer pendant 4 ou 6 ans, je crois, avant d'égaler la quantité de ressources et d'énergie qu'il avait fallu pour le construire. Et la puce elle-même hein, nécessite beaucoup de moyens, donc on ait un téléphone en main ou un ordinateur, l'écart n'est pas si important.
Donc les ordiphones sont plutôt coûteux parce que, oui, notamment, ils contiennent des matières premières très difficiles à extraire. Il y a des cobalt, il y a du lithium qui sont coûteux et polluants en plus. Et puis effectivement, rassembler tout ça, c'est coûteux. Et en plus de ça, tout ça, ça va terminer dans des décharges qu'on va envoyer dans des pays du tiers-monde, sur des barges, et où on va laisser des gens mourir gentiment d'une mauvaise mort, parce que ils vont se retrouver pollués avec des métaux lourds, qu'ils vont essayer de récupérer pour en gagner leur vie avec les matières premières qui en sont extraites. Donc de temps en temps, ils extraient de l'or, hein, il y a pas mal d'or dans tous nos composants électroniques, mais il y a aussi pas mal de saloperies qui vont rentrer dans leurs poumons, dans leur peau, dans leurs organismes. Donc la construction est mauvaise, la destruction est mauvaise aussi, c'est vraiment terrible. Donc oui, il faut réutiliser le même matos quoi, et installer du logiciel libre qui est souvent, pas tout le temps, mais qui est souvent plus sobre d'un point de vue de l'usage de la machine et d'un point de vue énergétique. Il y a moins de brillants dans les logiciels libres, c'est vrai, hein, ils sont peut-être parfois un peu moins jolis, mais souvent ils sont plus efficaces en termes d'usage.
Souvent dans les logiciels libres qui sont communautaires, il fait ce qu'il vise à faire et il n'a pas d'objectifs parasites qui sont souvent liés aux logiciels propriétaires, avec derrière des services marketing qui veulent que les gens utilisent absolument ce logiciel, l'utilisent le plus souvent possible, etc. etc. On peut du coup dériver du côté des réseaux sociaux et des services hébergés. On sait, ça a été expliqué maintes fois, qu'un réseau social comme Facebook est optimisé pour que les gens y retournent le plus souvent possible. Parce que eux vendent de la pub, donc ils ont besoin que les gens viennent sur leur réseau, ils soient tout le temps. Et donc du coup, ça rend un service relativement médiocre, mais ça force aussi les gens à surconsommer pour vendre de la pub, parce que leur objectif, c'est pas que les gens communiquent entre eux, leur objectif, c'est bien de vendre de la pub.
Alors, moi, j'aime bien parce que tu rapproches avec ce qu'avait été expliqué pour TF1. TF1, leur business model, c'est la vente de temps de cerveau disponible. Et donc, leurs clients à TF1 et à Facebook, ce ne sont pas les utilisateurs, ce sont les annonceurs. Donc, c'est terrible. Et effectivement, eux, l'écologie là-dedans, la dépense énergétique, c'est une sorte d'effet secondaire. Enfin, on s'en fiche, c'est dans le produit. De toute façon, tout ça, c'est juste pour les annonceurs. Le reste, c'est que dalle, quoi, on s'en fiche.
Et donc, dans le logiciel libre ou des services hébergés comme ceux des chatons, on n'a pas ce besoin impératif que les utilisateurs nous appartiennent, qu'ils fassent telle ou telle chose, qu'ils soient tout le temps en train d'utiliser leur ordinateur. Il n'y a pas cet objectif commercial. Et après, il y a aussi des logiciels qui vont embarquer plein de fonctions, toujours pour essayer de capter des données personnelles. On a toute la surveillance dans les réseaux sociaux, la publicité, tout ça, ça consomme énormément de ressources. Et il y a plein de fonctions qui vont être là pour capter des données. Donc tout ça, il faut qu'il y ait des serveurs qui tournent, qui enregistrent ces données-là. Tout un réseau très compliqué de vendeurs de pubs, etc. Pareil, ça consomme également beaucoup de ressources, juste pour faire circuler du pognon et enrichir des gens.
Oui, je rappelle, chaque fois que vous allez sur une page web sur Internet, dans laquelle il y a un encart de publicité, quand vous demandez à afficher la page web, en même temps que votre page web est générée pour votre appareil, il y a des demandes qui sont envoyées sur des places de marché publicitaires, plusieurs en même temps, et qui sont diffusées à travers tout un réseau de publicitaires qui vont s'échanger l'information, vous voulez voir une page web, et ils vont se l'échanger et ils vont la mettre aux enchères pour savoir qui va y répondre. Et la page de publicité ou l'élément de publicité que vous avez recevoir, c'est le résultat d'une moulinette hyper sophistiquée. Pas forcément précise, parce que ça merde régulièrement, mais qui va essayer de travailler pour vous afficher un truc qui va vous inciter à consommer. Donc il y a un travail qui est juste phénoménal et qui va déclencher des efforts et qui explique en partie pourquoi les serveurs web aujourd'hui, ce sont des data centers gigantesques qui consomment des quantités d'énergie incroyables.
On avait eu un chiffre il y a quelques années, c'est relativement récent, qui disait que le poids moyen d'une page web aujourd'hui pèse autant que le jeu Doom, j'avais dit il y a quelques mois que le Doom, c'était une mesure de volume, c'était 2016, donc ça commence à dater. Donc aujourd'hui, on doit être bien au-dessus. Dans les années 90, on avait ce jeu qui révolutionnait tout. Aujourd'hui, une page web moyenne est bien plus lourde que ce jeu tout entier.
C'est une évolution qui est pas mal. Moi, j'aurais préféré qu'on dise, dans votre téléphone portable et dans une page web, il y a combien de fusées Apollo qui sont contenues? Parce qu'une fusée Apollo, n'oublions pas, c'était des calculateurs embarqués, mais rudimentaires. Et aujourd'hui, un téléphone portable de base fera beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus noble comme comparaison qu'un jeu Doom, quand même. Ça reste rude.
Alors, il y avait des chiffres, Green IT, qui est un site qui s'intéresse à l'environnement et à l'informatique, en 2015 estimait que la publicité représentait 39% du poids des pages web. Donc, si on veut réduire le trafic, supprimer la publicité, comme dans le monde physique, permettrait de réduire considérablement le gâchis énergétique.
Donc, ça suffira sûrement pas. Les data centers, j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'ils vont continuer à pulluler et à grossir. Sachant que les data centers, moi perso, ça me fait toujours bizarre. Leur consommation énergétique, c'est avant tout, ou en tout cas une grosse partie de leur consommation énergétique, c'est la ventilation. Parce que tout ça, ça chauffe hein, et il faut refroidir le bordel. Et refroidir le bordel, c'est très compliqué. Il faut des réflexions en amont qui sont très lourdes. Peut-être que la Green Software Foundation va travailler à ce sujet, parce que je sais que bah, les GAFAM, hein, ils ont déjà travaillé sur ça, sur des plans de data center optimisés pour réduire les consommations. Et ils savent aussi qu'ils sont attaqués sur ce sujet de l'écologie et de la dépense énergétique à outrance. Et donc, ils font des efforts, en termes de communication en tout cas. Je crois que ce n'est pas Google qui avait promis d'être neutre énergétiquement parce que... bah, ils replantent des arbres parce qu'ils font monter des éoliennes, ils participent à des projets positifs. Et donc, ils essayent de contrebalancer un petit peu. Puis, ils savent très bien que c'est une mauvaise image aussi. Hein. Les data centers consomment beaucoup, beaucoup trop et ils veulent compenser.
Voilà, Apple a fait son super siège social là, qui est censé être énergie zéro ou positive. Bon, ça ne change rien sur le fond du problème. Microsoft a testé des data centers qu'on peut plonger dans l'eau. En disant, voilà, on le met au fond de l'océan et donc la chaleur se dissipe sans avoir besoin de dépenser de l'énergie pour la clim, etc. Bon, dans le domaine de l'informatique et du gâchis, il y a un autre sujet, c'est les crypto-monnaies, dont on parle régulièrement.
Les crypto-monnaies, ça gâche, mais comment ça tu veux gâcher? Mais non, les crypto-monnaies vont nous sauver.
Oui, je ne sais pas. En tout cas, dans les chiffres qu'on a, en fait, régulièrement, notamment pour le Bitcoin, on a des comparaisons de la quantité d'énergie dépensée pour calculer les Bitcoins par rapport à des pays.
T'en avais parlé il y a pas longtemps et moi j'en étais resté à l'Irlande.
Eh bah, ben, on a progressé. Maintenant, on y est au niveau de la Norvège et donc ça a beaucoup augmenté.
C'est-à-dire que la consommation énergétique dépensée pour générer les bitcoins et valider les transactions de bitcoin correspond à la dépense énergétique, la consommation énergétique d'un pays comme la Norvège.
Elle est même supérieure puisqu'aujourd'hui, alors c'est des estimations qui datent de mai 2021, donc qui sont assez récentes pour le bitcoin. Qui s'appuie sur les consommations énergétiques des pays de 2019. C'est Statista qui estime que le Bitcoin représente une consommation de 143 TWh. La Norvège en fait 124. La totalité des data centers du monde entier en fait 205, selon ces statistiques. Donc, on peut faire des efforts sur les data centers, mais si on arrêtait cette connerie qu'est le Bitcoin, bah, on ferait un progrès de quoi, 40%. Enfin, on réduirait quasi de moitié la consommation due à l'informatique, en fait, de faire tourner des serveurs, quoi.
Je crois que c'est un quart de la consommation de la France.
Voilà, électrique.
Donc, donc, c'est juste gigantesque. Alors, petit détail, peut-être une anecdote qui m'amuse toujours, c'est que Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, au moins temporairement, il a encouragé, puis découragé les usages des crypto-monnaies. Il l'a encouragé parce que c'était des modèles innovants, hyper technologiques, ça lui plaisait bien, c'était décentralisé. Et finalement, il l'a découragé après coup. Parce que, bah oui, ça consomme beaucoup énergétiquement et qu'il ne pouvait pas aller dans ce sens-là. En tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Donc, alors, il y a des évolutions sur les crypto-monnaies. Parce que le Bitcoin, effectivement, tout le monde leur tape dessus. Il y a des pays qui commencent à les interdire. La Chine essaye d'interdire l'usage des Bitcoins, mais ils continuent à avoir le plus grand nombre de mineurs de Bitcoin au monde. Mais ils veulent interdire l'usage, c'est déjà une évolution. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui font des crypto-monnaies d'un point de vue technique, qui se rendent compte que c'est problématique, hein. On s'appuie sur ce qui s'appelle une preuve de travail. Et bah ouais, le travail, c'est de l'électricité, c'est de l'énergie. Et il faut changer de modèle, il faut passer à une preuve d'enjeu. Mais c'est des technologies, c'est des problématiques d'algorithmes très compliquées et un peu risquées.
Moi, je dirais qu'il faudrait passer à une monnaie qui, un, soit pas déflationniste, qui soit pas un truc de spéculation, parce que ça sert à rien. Enfin, les gens sont contents parce que certains d'entre eux s'enrichissent sans bosser. Et également, de mon point de vue, une monnaie devrait être un outil de politique économique, on en a grand besoin, et ne devrait pas permettre à la mafia de magouiller, ni à des grosses institutions financières de faire bouger de l'argent discrètement. Et c'est à ça que sert les crypto-monnaies. Donc pour moi, la crypto-monnaie, on a un très bon moyen de consommer moins, c'est d'arrêter d'en faire. Voilà, je ne fais pas partie des fans de crypto-monnaies, même si je comprends bien que technologiquement, c'est enthousiasmant. Je ne vois pas vraiment de côté positif à ces trucs-là, quoi.
Bon, bah, j'encourage les auditeurs à remonter dans l'historique de nos podcasts, parce qu'on a déjà fait des émissions sur le sujet des monnaies alternatives. Il y a des choses qui sont super intéressantes qu'on a rencontrées dans nos histoires. Et bah, allez jeter un œil, je pense qu'on en reparlera, on sera obligé. Hein.
Ah. Voilà, et donc pour conclure, l'Organisation Météorologique Mondiale, bon, on trouvait ça dans un article de La Presse, un article canadien, mais ça a été publié ailleurs, vient d'estimer qu'il y a une probabilité de 40%, que la limite d'1,5 degré qui avait été fixée dans les accords puisse être atteinte en 2025, donc dans un délai extrêmement court, donc 40% de chances que ça arrive en 2025. Et si on dépasse cette étape-là, bah, l'avenir va être très très malsain. Donc l'enjeu, il est colossal et il est immédiat.
Bon, bah sur ce, immédiatement, je te dis à la semaine prochaine.
Oui, salut.
Salut.